Est-ce qu'ici dans le musée, s'il y a le savoir-faire est là, on arriverait à refaire une montre de A à Z?
Alors, boîte de montre en tout cas, la question a été plusieurs fois posée. Pour l'instant, on n'a pas de réponse concrète, c'est opérationnel. Maintenant, reste à trouver quelqu'un qui peut encore tourner sur un tour du bail, sur un tour revolver, ou alors sur le tour à perche qu'on a de l'autre côté, là où on tournait au pied. Alors, on connaît quelqu'un qui habite dans le sud de la France et qui, lui, sait encore fabriquer une boîte de montre sur les techniques qu'on a là-bas. C'est, je crois, le dernier au monde.
Alors, Georges Catin, vous vivez de quoi?
D'amour et d'eau fraîche.
Ah ouais? Oh, quelle chance!
Non, moi, j'ai une petite activité boîtière où je travaille encore sur des machines comme celle-là, hein, tour du bail, tour revolver. Maintenant, le musée de la boîte, c'est un apport assez considérable pour moi. Je dirais j'ai beaucoup de chance. J'ai appris par immersion, comme on faisait à l'époque, au contact de mon père, de mon grand-père, qui était ce qu'on appelait des tourneurs du bail et revolver dans le monde de la boîte. Donc, ils ne savaient travailler que sur ces machines-là. Et lorsque les commandes numériques sont arrivées, dans les années 1980, grosso modo, ils ont décidé de ne pas faire le pas, parce que c'était des investissements énormes. Et puis, pour eux, c'était un autre monde. C'était un changement de paradigme complet. Donc, c'était fini.
Mais vous n'avez pas changé de monde quelque part?
Non, parce que je me suis toujours un peu considéré comme un dinosaure. Alors, étant seul, travaillant seul, je n'avais pas non plus les moyens d'acheter des commandes numériques qui coûtent quand même bonbon. En plus, disons, l'informatique, ça m'intéresse bien au niveau du traitement de texte et de l'usage d'Internet. Mais moi, je suis dans l'âme manuelle. J'ai envie d'avoir ce contact avec la matière, d'avoir le burin au bout des doigts, comme j'ai souvent entendu dire chez les anciens, de voir les bûchis qui tombent, de dire ben là j'ai enlevé 2 centièmes sur cette fermeture, voilà. Alors ça c'est mon plaisir, mais s'il n'y avait pas un concours de circonstances qui me soit favorable, disons, je ne pourrais plus en vivre.
Vous êtes un peu le dernier des Mohicans à ce niveau là
oui. L'idée, c'est de, dans un très proche avenir, d'écrire un guide du musée, disons, mais qui serait assez détaillé.
Ce ne serait pas votre premier ouvrage?
Non. Et mes ouvrages sont essentiellement consacrés au patrimoine, hein, que ce soit les orgues, les centrales électriques, la chapelle des Côtes, bon, ça c'est plus récent, ou Bellelay. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je rêve d'une histoire des boîtiers qui n'a toujours pas été écrite, mais pas d'une histoire économique. Parce que c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais une histoire technologique, c'est-à-dire les machines qu'on a utilisées, les gens qui sont derrière ces machines, ce sont des gens très intéressants.
Vous parlez historiquement, vous-même, comment vous l'avez vécu, tous les changements qu'il y a eu ces dernières années?
Moi, je l'ai vécu avec une sorte de détachement parce que j'aime bien regarder les choses un petit peu avec la hauteur du philosophe. Mais je me souviens très bien de mon père et de mon grand-père qui, eux, surtout mon père, avaient beaucoup moins de détachement par rapport à ça et qui vivaient un peu la révolution numérique comme un drame. Parce que tout à coup, ces vieilles machines sur lesquelles ils s'étaient usés les doigts, elles n'avaient plus cours. Et puis les entreprises prenaient du volume. Tout à coup, on parlait d'entreprises de 100 ouvriers, 200, 500. Eux qui travaillaient à 3 ou 4, hein, j'entends, c'était une autre affaire. Il y avait aussi plein de débats sur la mode. Tout à coup, on disait « Ah, maintenant, c'est la forme ». Alors, ça voulait dire qu'on passait de la boîte ronde à la boîte de forme. Donc, il fallait changer l'outillage. Sur des machines comme ça, c'est juste pas possible. Voilà, tout à coup, c'était un peu la fin du monde. Après, on disait « Ah, la ronde revient, la foire de Bâle. Oui, alors on a vu des rondes, c'est bon.
On respirait un peu.
Hein. Oui. C'était assez terrible. Et puis mon grand-père, par exemple, était très inquiet. Lui, il avait été traumatisé par les crises économiques de 1921-1929. Il en parlait pratiquement tous les jours. Puis il y avait une espèce d'espionnite. Il paraît que le parate, il a reçu une commande. Et puis parfois même, il l'indiquait dans la presse. Alors Urbain Parate, ici, qui était un boîtier assez particulier, Quand il recevait une bonne commande, il mettait un article dans la presse. J'ai reçu une commande. Alors les autres, évidemment, devenaient furax. Hein, ils changeaient de couleur. C'était juste un effet de manche pour agacer garder... la concurrence.
Oui, oui. Pas pour garder la façade. Mais...
Ah, c'est un petit peu le côté, je dirais, le côté cloche-merlesque des boîtiers. C'est qu'ils étaient assez jaloux les uns des autres. Il y avait une philosophie du secret. Hein, on ne montrait pas comment est-ce qu'on travaillait, etc. De temps à autre, il y avait un ouvrier qui quittait une entreprise pour aller dans une autre, souvent pour une question de salaire. Et là, c'était un peu terrible parce qu'on disait, oh là là, mais il va transférer tous nos savoir-faire. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, c'était pas un milieu très, très sain.
Ceci dit, c'est quelque chose d'assez romanesque, je trouve. Ça ne vous dirait pas d'écrire une fiction de cette époque-là?
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit texte d'un certain Roger Boudrier, c'est un pseudo d'ailleurs, qui s'appelle Le Trim. Et où il raconte justement son activité de boîtier sur Tramelan et environ dans les années 1880, donc plutôt l'atelier qu'on a derrière nous. Et alors c'est justement ça, il est engagé, au bout d'une semaine il se rend compte que le travail commence à caler, comme on disait, et puis au bout d'un mois, on le met à la porte, et puis il va chez un autre boîtier, puis il rebelote, etc. Puis il a fait comme ça des dizaines de fabriques de boîtes, et c'est un des très rares, sinon le seul texte qu'on ait de cette région sur ce milieu-là.